Ce soir, nous parlons de sur les portes toujours. Et je voudrais qu'on s'apesantisse sur le sous-thème posséder les portes de nos ennemis. Alléluia. Posséder les portes de nos ennemis. Posséder les portes de nos ennemis. Alléluia. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans deux textes. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, le verset 15 au verset 17. Genèse 22, 15 à 17. Et Genèse 24, le verset 60. Genèse 24, le verset 60. Je répète les textes. Genèse chapitre 22, le verset 15 à 17. Genèse chapitre 24, le verset 60. Genèse 24, le verset 60. Est-ce que tout le monde y est? Alors on va lire, on va prendre la première lecture. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la lecture de la parole du Seigneur? Genèse chapitre... Alléluia. Vous avez noté tous les textes? Vous avez tout noté? Est-ce que quelqu'un n'a pas pu tout noter? Ok, on va y aller. Genèse chapitre 22, le verset 15 à 17. Je lis au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Genèse chapitre 24, on va prendre le verset 60. Alléluia. Le verset 60, voici ce qu'il est écrit. Il bénit Rebecca et lui dit, « À notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Il bénit Rebecca et lui dit, « Oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimés, ces deux scènes vont nous aider dans quelques minutes dans la prière. Et le premier texte nous parle de l'instruction que le Seigneur va donner à Isaac, à Abraham, de lui offrir son fils, son unique, comme sacrifice. Alléluia. Et la Bible dit que c'était pour le Seigneur une mise à l'épreuve pour connaître la place qu'il avait dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Abraham, bien entendu. Alléluia. Et la Bible dit que Abraham va donc partir à partir du verset 4 pour se rendre au lieu que l'Éternel devait lui montrer afin de pouvoir sacrifier Isaac. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'il va y aller, il va arriver à un certain niveau, son fils va lui dire, écoute papa, il y a tout ici, mais il manque l'agneau du sacrifice. Et son père de lui répondre qu'à la montagne, l'Éternel se pourvoira lui-même. Et lorsqu'ils vont arriver à la montagne, je ne sais pas par quelle alchimie, je ne sais pas qu'est-ce que Abraham a dit à Isaac pour que Isaac accepte délibérément de se coucher alors que son père l'avait dit à la montagne, l'Éternel se pourvoira lui-même. Oh là là. Mais toujours est-il que Isaac va se retrouver sur l'autel et son père va être sur le point de le sacrifier. Et c'est alors que l'Éternel va répondre par une interpellation à l'endroit d'Abraham de ne pas poser la main sur l'enfant parce que il y avait un bélier qui était retenu dans un buisson par ses cornes. Alléluia. Et Abraham va donc aller prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Et la Bible va dire que Abraham va donc déclarer ce lieu la montagne de la provision. Il y a la montagne de l'Éternel, il sera pourvu et de ce nom va venir Jéhovah Jiré.
Alléluia. Et donc, à la suite de cela, l'ange de l'Éternel va appeler Abraham une seconde fois. Rappelez-vous que la première fois, il va l'appeler pour lui dire de ne pas mettre la main sur l'enfant. Alléluia. Et lui montrer le sacrifice. La deuxième fois maintenant, la Bible dit que l'ange de l'Éternel va appeler une seconde fois Abraham des cieux et va lui dire et va déclarer un certain nombre de bénédictions, de paroles prophétiques sur la vie d'Abraham. Parmi lesquelles, la possession des portes de ses ennemis. Alléluia. La possession des portes de ses ennemis. Et il va parler, il va pas dire à Abraham que c'est à toi, mais c'est ta postérité. C'est ta postérité qui va posséder les portes de ses ennemis. Alléluia. Et au chapitre 24 du même livre de Genèse, nous voyons Isaac, nous voyons comment Abraham va envoyer Eliezer dans la famille, dans sa famille, pour pouvoir trouver une femme à Isaac. Alléluia. Et quand il va trouver, on va faire grâce de toutes les péripéties, il va trouver Rebecca. Alléluia. Et c'est le moment pour que Rebecca rentre dans sa belle famille. Amen. Alors, la Bible dit que les sœurs de Rebecca vont donc également prophétiquement déclarer une parole qui n'était pas présente. Alléluia. Il n'était pas présent quand Dieu a parlé cette parole à Abraham. Et les sœurs de Rebecca vont lui dire une chose. Elles vont dire, oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers et des milliards. C'est-à-dire, multiplie-toi. Et ta postérité, que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Alléluia. Bien-aimés, depuis quelque temps, nous parlons des portes. Nous avons dit que les portes sont des lieux de rencontre pour des personnes principales, pertinentes et précieuses du pays. Nous avons dit que les portes sont des lieux de verdict, sont des lieux de décision, sont des lieux de transaction de jugement. Nous avons dit que les portes sont des lieux d'approvisionnement, de richesses et de commerce. Nous avons dit que les portes sont des lieux de défense et de sécurité. Alléluia. Alors, revenons à ces deux textes et interrogeons-nous. Ici, Dieu parle au chapitre 22, au chapitre 24, de la postérité d'Abraham. Mais qui est cette postérité? Qui est la postérité d'Abraham? Alléluia. Qui est la postérité d'Abraham? Alors, Paul va répondre à cette grande question dans Galates chapitre 3, le verset 29. Il va dire, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Alléluia. Héritier selon la promesse. Si vous êtes à Christ, vous êtes quoi? La postérité d'Abraham. En d'autres termes, qui est la postérité d'Abraham? Toi qui as donné ta vie à Jésus. Alléluia. Toi qui as donné ta vie à Jésus, tu deviens la postérité d'Abraham. Alors, je voudrais revenir un peu sur le chapitre 24, le verset 16. La Bible dit que le verset 17, il dit, je te bénirai et multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Bien aimé, ici là, il est question de deux postérités. La postérité qui est liée aux étoiles et la postérité qui est liée au sable. Alléluia. Ici, il est question de la postérité physique et la postérité spirituelle. Les étoiles représentent la réalité spirituelle. Le sable représente la postérité physique. Alléluia. Alors, ici, quand nous parlons de la postérité physique, nous parlons d'Israël qui est aujourd'hui en guerre. Quand nous parlons des étoiles du ciel, nous parlons de toi qui as donné ta vie à Jésus. Alléluia. Parce que Thomas, j'ai découvert il y a quelques jours dans les Écritures que le mont Sinaï n'est pas en Égypte. Alléluia. Le mont Sinaï n'est pas en Égypte. J'étais choqué. J'ai dit, mais comment le mont Sinaï? Nous tous, nous savons que le mont Sinaï est en Égypte. Alors, je vais vous montrer. Allons-y dans le livre de Galates, chapitre 4. Alléluia. Allons-y rapidement. C'est juste une parenthèse. Genèse chapitre 4. Galates chapitre 4. Alléluia. Et on parle toujours de la postérité. Alléluia. Lisons à partir du verset 21. Il dit, moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. L'une du monde, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï où? Hein? C'est où? C'est pas écrit? C'est ça, non, pasteur Thomas? Le mont Sinaï est où? En Arabie. Dans le golfe Persique. Là où aujourd'hui on appelle l'Arabie Saoudite, c'est là où se retrouve le mont Sinaï. C'est pourquoi là-bas on a bâti un temple pour les trois religions. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Alléluia. Ne me regardez pas, regardez les Écritures. Alors, la Bible nous dit ici que le mont Sinaï est où? En Arabie. La Bible n'a pas dit le mont Sinaï est en Égypte. Donc, alors, lorsque nous observons donc, dans ce texte, la Bible nous parle de deux alliances. La Bible nous parle de deux postérités. Abraham a eu deux postérités. Deux postérités. Et Dieu va dire cela dans le chapitre 22. Il va dire que la première postérité est liée aux étoiles du ciel. La deuxième postérité est liée au sable qui est sur le bord de la mer. Qui est sur le bord de la mer. En d'autres termes, Ismaël et Isaac. En d'autres termes, le chrétien, ou bien celui qui a donné sa vie à Jésus, qui est Israël spirituel, et Israël physique, qui est Israël d'Agar. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, si vous êtes dans la postérité d'Abraham, votre destinée est donc de faire quoi? De posséder les portes de l'ennemi, de posséder les portes de vos ennemis. Bien-aimé, lorsque tu n'obéis pas à cette responsabilité, l'ennemi va contrôler ta destinée. L'ennemi va contrôler la destinée de ta famille. L'ennemi va contrôler la destinée de ta généalogie de génération en génération. Alors, si vous allez dans le livre de Genèse, chapitre 18, vous verrez une autre scène. La Bible dit que Abraham se reposait sur les chaînes de Mamré. Alléluia. Et il va avoir la visite de trois personnes qu'on identifiera plus tard comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais Abraham va les reconnaître selon leur identité spirituelle. Et la Bible dit qu'Abraham était couché à la porte de sa tente. Il était où? Il était couché où? Non, vous ne lisez pas votre Bible. Lisons ensemble. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Pendant la chaleur du jour. Bien-aimé, il est important de comprendre que lorsque tu es couché à l'intérieur de la tente, tu n'as pas la même visibilité que lorsque tu es assis à la porte. À la porte, tu contrôles ce qui entre. À la porte, tu contrôles ce qui sort. À la porte, tu es averti de la révélation qui arrive dans ta vie. C'est pourquoi Habakkuk lui-même se tenait où? À la brèche. La brèche, c'est une porte. La brèche. Il dit, je me tenais à la brèche pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Bien-aimé, où est-ce que tu es assis? Où est-ce que tu es assis? Alors, regardez. Si vous regardez le verset 2 du même Genèse chapitre 18, la Bible dit, il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente. Il n'était pas à l'intérieur. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu perdent certaines révélations parce qu'ils sont couchés à l'intérieur. Reste à la porte. Dis à ton voisin, reste à la porte. reste à la porte. Quand quelqu'un dort à la porte, il est comme un vigile. Il est comme un vigile. Mais quand tu dors dehors, dedans, bien-aimé, tu n'as pas la réactivité de l'esprit. Amen. Et la Bible dit, observez le verset 19. Observez le verset 19. Pardon, le verset... Le verset 19, est-ce que j'y suis? Oh, merci Jésus de m'aider. Alors, la Bible dit qu'il va donc se tenir un entretien entre Abraham et ses trois personnes sur la promesse que Dieu avait faite à Abraham 24 ans en arrière. Et donc, de cette conversation, une des personnes va s'adresser à Abraham et lui dit, où est ta femme? Alléluia. Où est ta femme? Verset 9, regardons le verset 9. Il dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est où? Elle est où? Dans la tente. Elle n'était pas à la porte. Elle était où? Dans la tente. C'est pourquoi lorsque tu es dans la tente, tu peux douter des promesses de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu es dans la tente, tu peux être frustré des promesses de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu es dans la tente, bien-aimé, tu peux croire que Dieu t'a abandonné. Alléluia. Observez le verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait où? Cette fois, elle écoutait à quel endroit? À l'entrée. Sa position avait changé. Ah, je prie pour toi. Qu'à partir de cette nuit, tu sois l'entrée de ta destinée. Tu sois l'entrée de la porte de ta destinée. Tu sois l'entrée de la porte de la destinée de ta famille. Tu sois l'entrée de la porte de la destinée de ton futur. Au nom de Jésus, pour identifier les activités du monde des ténèbres et savoir comment répondre à cette activité au nom de Jésus. Vous voyez, c'est très important. C'est très important. Alors, allons-y un peu rapidement. Revenons en arrière. Genèse chapitre 13. Observons encore un autre texte très intéressant, bien-aimé. Lorsque tu ne comprends pas ces choses, tu ne peux pas posséder la porte de tes ennemis. Genèse chapitre 13. Nous voyons une histoire entre Abraham et Lot. Alléluia. Nous voyons une histoire entre Abraham et Lot. Regardez le verset 14. Le verset 13-14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à la postérité pour toujours. Lève-toi. Parcours le pays dans ta longueur et dans sa largeur, car je te donnerai. Je te le donnerai. Alléluia. Alors, je voudrais que vous réalisez une chose, bien-aimée. Dans la compréhension du Seigneur, quand Jésus dit qu'il est la porte des brebis, c'est une porte mouvante qui bouge. C'est pourquoi dans le désert, la tente d'assignation bougeait. La porte bougeait. Alléluia. La porte dans la réalité du Seigneur, ce n'est pas une porte statique. Ta porte aussi est statique. Ta porte aussi est statique. Mais la porte du Seigneur bouge. Elle bouge avec toi. Elle marche avec toi. Alléluia. Alléluia. Mais bien-aimé, nous parlons ce soir de posséder les portes de nos ennemis. Et c'est à toi, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Les portes sont des lieux de contrôle territorial. Quand tu possèdes les portes de ta famille, tu as l'autorité sur tout ce qui se passe dans le territoire de ta famille. quel que soit le lieu où un membre se retrouve, même s'il est aux États-Unis, même s'il est en Australie, depuis le Cameroun, tu contrôles l'environnement spirituel de sa vie. C'est ça la réalité de la porte. La Bible nous raconte une histoire selon laquelle Absalom avait pris le pouvoir aux dépens de son père, David. Vous vous rappelez de cette histoire? Et après, il va avoir le retour de son action. Absalom va être tué dans la révolte. Vous vous rappelez encore de cette scène? Et lorsque Absalom va être tué, la Bible dit que la nouvelle va parvenir à David par un homme. L'homme va croire que David va le récompenser. Il va venir, oh David, ton ennemi, on l'a tué. David dit que tu es cet homme. Et David, au lieu de célébrer la victoire, le trône retrouvé, la Bible dit David a fondu dans les pleurs. Il a tellement pleuré fort que la victoire d'Israël s'est transformée en lamentation. Tout le monde est rentré dans sa tente en pleurant. Alors le roi, alors Joab le général, va lui dire, va venir vers lui et lui dire, roi, si tu continues à rester comme ça, dans cette attitude, demain à la même heure, tu n'auras même plus un soldat pour commander. Parce que personne ne pourra plus se tenir pour toi. C'est pourquoi je vous dis, les portes sont des lieux de contrôle territorial. La Bible dit au chapitre 2 Samuel, chapitre 19, verset 8, la Bible dit que le roi va se lever. Amen. Et il va s'asseoir à la porte. Et la Bible dit, on fit dire à tout le peuple, voici le roi est assis à la porte et tout le peuple vint devant le roi. Cependant, Israël s'était enfui chacun dans sa tente. Quand on a su que le roi était à la porte, tout le monde s'est apaisé. On dit, ok, d'accord, il tient encore le commandement. Il est encore capable de pouvoir gérer l'atmosphère. Ça veut dire que quoi, bien-aimé? Lorsque Dieu te donne le contrôle de la porte de tes ennemis, cela ne te donne pas automatiquement la victoire. Tu vas connaître de temps en temps des confusions, mais tu dois rester permanemment aux portes. Ne quitte pas ton poste. Ne quitte pas ton poste. Quel que soit ce qui va se passer, reste à ton poste. C'est pourquoi de temps en temps, l'ennemi sème la confusion, l'ennemi sème la tristesse pour que nous nous déconnectons de notre poste. Et quand nous déconnectons de notre poste, le voleur peut entrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne quitte pas ton poste. Dis à quelqu'un, ne quitte pas ton poste. Ne quitte pas ton poste. Bien-aimé, aujourd'hui j'écoutais un prédicateur. Le prophète Issa Elbouba dit quelque chose dans une de ses prédications. Il disait, la joie que je vous prêche là, la joie est d'une importance que vous n'avez pas le droit de laisser quelqu'un affecter votre état de joie. Il dit même Dieu n'accepte aucune offrande de tristesse. Ni de confusion. On dit qu'il faut que l'offrande soit accompagnée d'action de grâce. Il dit même Dieu qui est tout puissant a besoin que ton offrande soit accompagnée de joie. Alléluia. Alléluia. Et parfois l'ennemi nous déconnecte par notre état d'esprit. Oh, je suis triste. Oh, on m'a déçu. Oh, on m'a calomnié. Oh, tu quittes. Satan dit pardon. Quitte. Va. Comment vas-tu posséder les portes? Comment? Satan dit, regarde. On t'a offensé. Quitte. Va pleurer. Va te lamenter. Dis même que. D'ailleurs même, je suis, c'est pas mon travail seul. Moi-même, je n'ai pas à me chercher. Alléluia. Et c'est comme ça que nous tous, on signe notre lettre de démission. Satan brandit, dit que pardon, signe ici, vite. Alléluia. Signe vite. Et aussitôt que tu signes, la catastrophe rentre dans la maison. La catastrophe rentre dans la famille. La catastrophe rentre dans les vies des gens dont tu avais la charge de veiller. Ce soir, je suis venu réveiller quelqu'un. Amen. Alléluia. Quand je parle que les portes sont des lieux de contrôle territorial, il y a des batailles pour le contrôle du territoire. Il y a une bataille pour le contrôle du territoire entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Rappelez-vous dans Daniel chapitre 10, à partir du verset 12 au verset 13, nous voyons comment Daniel va prier. Mais il ne va pas avoir la visitation. Pourquoi? Parce que quelqu'un contrôlait les portes. Quelqu'un contrôlait les portes. L'ange est arrivé, il n'avait pas le droit d'entrer. Le prince de paix a dit, mon type, c'est moi qui contrôle ici. Quelle que soit la qualité de la prière de David, de Daniel, tu n'as pas le droit d'entrer. C'est pourquoi une des clés qui vous permettra de posséder les portes de vos ennemis, c'est la prière persévérante. La prière persévérante. C'est ce que Paul appelle la prière de la foi. Alléluia. Il dit la prière de la foi dans le livre de Jean. Il dit cette prière est d'une grande efficacité. Elle est d'une grande efficacité. Oh, tu pries une minute, tu pries, après les choses n'avancent pas. 2 jours, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Regardez notre père Abraham, il a prié 24 ans. 24 ans pour un seul sujet de prière. Oh Dieu, aide-nous. Oh Dieu, aide-nous. 24 ans pour un sujet de prière avec la foi que même après 24 ans, ça va se réaliser. Hey! Abraham priait. Il priait. Il ne s'est pas arrêté en 1 mois. Il ne s'est pas arrêté en 1 année. Il n'a pas conclu sa situation comme beaucoup d'entre nous. Oh, j'ai déjà traversé telle situation, c'est un peu plus pour moi. Abraham a dit, c'est ma promesse. Alléluia. C'est ma promesse. Quel que soit le temps, cette histoire va finir par s'accomplir. Alléluia. Regardons dans le livre de Romains chapitre 4, le verset 18. Romains 4, le verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. 18, il dit ceci. Espérant contre toute espérance, il crut. Oh mon Dieu, espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, Abraham est allé au-delà de ce qu'un homme peut ressentir. Il a dit, l'affaire si, ma douleur n'est pas plus réelle que ce que Dieu a dit. La parole de Dieu est plus réelle que ma condition. La parole de Dieu est plus puissante que ma condition. Quel que soit ce que les hommes ont dit, je m'en fous, c'est ce que Dieu a dit. Quel que soit le temps, elle va teigner. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir, oh, c'est là où nous ratons le combat. Nous faiblissons dans la foi. Et sans faiblir dans la foi, ça veut dire qu'il est resté persévérant. Il est resté vraiment persévérant. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps. Eh, je vois là les gens qui considèrent leur corps. Oh. Alléluia. Je vois là les gens qui considèrent leur situation. Oh. Je vois là les gens qui considèrent leur état. Oh. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point. Dis à ton voisin, il ne douta point. Dis à ton voisin, voilà ton problème. Voilà ton problème. Voilà ton problème. Voilà ton problème. Il ne douta point. Par incrédulité. Au sujet de la promesse de Dieu. C'est-à-dire, Abraham a douté de tout sauf de la promesse de Dieu. Il a douté de lui-même, mais pas de ce que Dieu a dit. Il a douté de son incompétence à avancer, mais pas de ce que Dieu a dit. Non, 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 non. Quand on peut discuter de tout ça, frère, laisse.
Alléluia.
Ça, laisse. Laisse. Ça, c'est Dieu. Je peux douter que j'ai 100 ans, oui. Je peux douter que je suis vieux, oui. Je peux douter. Mais de la parole de Dieu. Papa, incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant quoi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ce qui rajeunissait Abraham. Il grandait gloire. Il louait l'Éternel. La deuxième clé pour posséder les portes, c'est la joie de l'Éternel qui produit la louange à l'Éternel. Qui produit la louange. La louange. Il donna gloire. Seigneur, je te donne la gloire. Seigneur, je te donne la gloire. Seigneur, je te donne la gloire. Même pour mon état d'esprit. Même pour mon corps. Je te donne toute la gloire. Même pour ce que les médecins ont dit. Je te donne toute la gloire. De ce que les hommes ont dit. Je te donne toute la gloire. 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 Même si Sarah n'y croit plus, je te donne toute la gloire. Voyez l'activité de Sarah. Sarah n'a pas cru jusqu'au bout. Hein. À un moment, elle a dit, papa, viens, il y a une deuxième solution. Prends Aga. Manque de foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi a toujours un plan B. Quelqu'un qui n'a pas la foi a toujours un plan B à la volonté de Dieu. Peut-être que Dieu ne voulait pas dire ça. Peut-être que Dieu a voulu dire que, mais j'ai mal compris. Peut-être qu'il faut que j'aille écouter encore d'une autre personne. Peut-être. Dieu, quand il parle, il est adulte pour dire, pour savoir ce qu'il a dit. Peut-être. Alléluia. 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 La dernière fois, nous parlons de la parole prophétique qui devait revenir quand nous arrivons aux portes. Bien-aimés, il faut une certaine persévérance. Il faut un certain état de joie pour parvenir à cette porte. Alléluia. Posséder les portes. Ses ennemis. Si tu as loupé l'état de ton cœur, si tu as loupé avec l'état, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui croient que parce qu'ils vont avoir le visage triste, Dieu considère que leur problème est trop grave. Il vient à l'église comme ça. Je souffre. Seigneur, vois ma misère. Il te regarde et dit pardon. Vous savez ce que le sacrificateur Élie a considéré dans la vie d'Anne, qu'elle était sous. Parfois tu arrives, tu fais tes trucs là, moi il te regarde et dit que tu es folle, quitte de là. Alléluia. C'est-à-dire que le sacrificateur considérait Anne comme une folle, insensée. Quitte devant la présence de Dieu, tu viens saouler dans la présence de Dieu. Va boire ailleurs. Il dit, papa, c'est mon cœur. Il dit, ok, d'accord. Mon cœur. Alléluia. Il y a un état d'esprit que tu dois avoir pour chercher la présence de Dieu. La joie attire la présence de Dieu. Rappelez-vous dans le livre de Luc chapitre 1, quand Marie a salué Élisabeth, l'enfant a tressailli de quoi? La première mention de la présence de Dieu sur la vie de Jean-Baptiste, c'était la joie. C'était la joie. Il n'a pas été rempli de puissance. Il a été rempli de joie. C'est pourquoi Néhémie dit que la joie de l'Éternel sera votre force. Dans la joie de l'Éternel, il y a la force de l'Éternel. Un des moyens pour provoquer la puissance de Dieu et la force de Dieu de manière permanente, c'est la joie. Et un homme de Dieu qu'on appelait Smith Wigglewood, un Anglais, il vivait en Afrique du Sud. Et il avait un ministère de miracles incroyables. Il était sauvage dans ses miracles. Amen. Il n'employait pas les canaux ordinaires. On raconte qu'un jour, il a été invité à assister un malade qu'on avait diagnostiqué un cancer. Alléluia. Et le médecin était là. Le médecin disait que l'état du cancer de cet homme est grave de manière à ce qu'il ne lui reste que quelques jours, quelques heures pour vivre. Et Smith dit, docteur, à quel endroit est localisé son cancer? Il dit que non, il a le cancer au niveau de sa poitrine. Il dit que ok. Il dit d'accord. Il a tourné un bon coup de poing. Pap! Le gars est mort instantanément. Le médecin dit que police. Le médecin est sorti en courant pour appeler la police pour qu'on vienne constater le décès. Quand il revient, il voit le gars qui sort. Alléluia, 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 na Yesu. Il chantait avec toute la force. Et Smith arrivait derrière en disant que le Seigneur l'a guéri, hein. Le Seigneur l'a guéri. Comme s'il n'avait rien fait. Chaque fois que Dieu veut libérer la puissance dans la vie d'un homme, la joie le remplit. C'est pourquoi il faut travailler l'état de ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Vous allez voir les gens quand ils prient. Ils prient, ils sont nerveux. La Bible dit que même l'Éternel se rit de ses ennemis. Ça veut dire une des manières pour l'Éternel de triompher de ses ennemis, c'est qu'il rit. Bien aimé, quand tu combats quelqu'un qui te regarde, il rit. Ça veut dire qu'il te méprise. Ça veut dire qu'il ne te considère même pas. Ça veut dire que quand l'ennemi te frappe, tu ris. Il dit, mais celui-ci, c'est encore qui? Il te frappe, maman Sylvie, elle rit, elle loue. Il dit, mais. Mais. C'est quel genre de choses? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le feu est sorti de devant l'Éternel et a consumé l'autel de l'Holocauste lors de sa dédicace. La Bible dit, tout le peuple a vu le feu qui est descendu et ils ont poussé des cris de joie et se jetaient sur leur face. Lévitique chapitre 9, verset 24. Bien-aimé, aujourd'hui je suis venu te donner des clés. Je suis venu te donner des clés pour remporter ta bataille. Alléluia. Je suis venu te donner des clés. Je vous ai dit la première clé, qu'est-ce qu'elle est? La prière persévérante. La prière persévérante. Chaque fois que la présence de Dieu se déplaçait en Israël, il y avait la joie. Il y avait la joie. Lorsque l'arche de l'Éternel est montée de la maison d'Obed-Edom, avant d'arriver dans la maison d'Obed-Edom, il y a eu quelqu'un qui est mort. Uzza. Alléluia. Hey, la fête a choqué Abraham, David. Alléluia. David a pris l'arche. Il a déposé chez un gars qu'on appelait Obed-Edom. La Bible dit que l'arche a fait chez Obed-Edom 3 mois. Obed-Edom est devenu multimilliardaire. La Bible dit, et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. David ne comprenait rien. David réfléchit. David dit que, mais ça a tué Uzza, qui est sacrificateur. Obed, les gens sont bénis dans sa maison. Il n'est pas sacrificateur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est allé chez Obed-Edom, il dit, papa Obed, avec tout le respect, je suis ton roi, mais je descends à ton niveau. Explique-moi le secret. Alléluia. Et Obed va lui dire, papa, la joie, la louange, la joie, la louange, la joie, la louange, la joie, la louange. 2 Samuel chapitre 6, à partir du verset 12. La Bible dit que on vient dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David. Au milieu de quoi? Des réjouissances. Au milieu des réjouissances. Au milieu des réjouissances. Bien-aimé, quand les choses sont compliquées dans ta vie, décrète une saison de louange dans ta maison. Quand les choses sont compliquées, décrète une saison de louange dans la maison. Décrète. Et vous allez voir que Obed Edom était un peu l'homonyme du grand-père de David. Amen. Parce que le grand-père de David s'appelait Obed. Obed a donné naissance à Isaïe. Alléluia. C'est ça, n'est-ce pas? 1 Chronique, chapitre 2, le verset 12. Alléluia. Donc, bien-aimé. Alors, vous allez voir que juste après cet incident, David va honorer la famille d'Obed. Et la famille d'Obed seront parmi les gens qui vont garder les portes du temple. Les portes du temple. Oh mon Dieu. 1 Chronique chapitre 15, le verset 24. 1 Chronique 15, le verset 24. La Bible dit Shebania, Josaphat, Nathaniel, Amazaïr, Zacharie, Benadja et Eliezer, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obed, Edom et Shechisha étaient portiers de l'arche. Oh mon Dieu. Ils étaient quoi? Portiers de l'arche. C'était eux qui veillaient sur la porte. C'était eux qui veillaient sur la porte. Ils sont devenus comme des chérubins, protecteurs de la présence de Dieu. Puisse l'Éternel te donner cette grâce au nom de Jésus. Puisse l'Éternel te donner cette grâce au nom de Jésus. Puisse l'Éternel te donner cette grâce au nom de Jésus. Ils sont devenus des portiers. 1 Chronique chapitre 7, le verset 38. On laissa Obed-Edom et Osa avec leur frère au nombre de 68. Obed-Edom, fils de Jéhudoun, et Osa comme portier. Vous vous rappelez de Jéhudoun? Jéhudoun, le voyant Jéhudoun, il était de la famille d'Obed. Parmi ceux qui ont écrit les livres des songes, il y a Jéhudoun dedans. Il y a Asaph. Il y a Jéhudoun. C'était les voyants. Les voyants. Et ils ne restaient que dans la présence de Dieu. Mon Dieu. Puisses-tu être le portier de la présence de Dieu. Puisses-tu être le portier de la voix de Dieu. Puisses-tu être le portier de la vision de l'Éternel. Puisses-tu être le portier de la présence de Dieu, du plan de Dieu pour ta famille, au nom de Jésus. Alléluia. Troisième clé pour posséder les portes. Troisième clé. Faire du royaume de Dieu sa priorité. Faire du royaume de Dieu sa priorité. Bien-aimé, tous ceux qui font de l'Éternel leur délice. Alléluia. Tout ce qui fait du royaume de Dieu leur priorité, l'Éternel fait de leur priorité, sa priorité. Alléluia. Vous voyez? Aujourd'hui, j'ai beaucoup étudié sur les portes. Et je me suis rendu compte, j'ai étudié les portes dans la vie de Paul. Je me suis rendu compte que Paul a provoqué beaucoup de portes. Paul n'est pas resté et j'ai réalisé que les portes que Dieu ouvrait devant Paul, ce n'étaient pas les portes de percée, les portes de finances, les portes de voyage. C'était les portes pour annoncer l'évangile. C'était les portes pour faire quoi? Annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. Que ce soit à Éphèse, que ce soit à Troas. Alléluia. À chaque fois, il parlait d'une porte qui était ouverte. où il y avait beaucoup d'ennemis, beaucoup d'adversaires. Mais tout cela était pour annoncer la parole de Christ. Alléluia. Bien-aimé, quand tu fais de Dieu ta priorité et que ton intention c'est de faire évoluer le royaume de Dieu, les portes deviennent une évidence devant ta vie et l'ennemi et leur bataille ne peuvent pas t'arrêter. Alléluia. Allons-y dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Regardons le verset 16. Alléluia. Regardons le... Est-ce que je me retrouve même? Alléluia. Voilà, 16, le verset 9. Amen. Lisons le verset 8 et le verset 9. Le verset 8 et le verset 9. Alors, quand nous observons ces deux textes, regardons. Il dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Beaucoup d'entre nous cherchons les portes de repos. Les portes où on n'a plus de problèmes. Les portes où on va éviter les problèmes. Les portes où on va esquiver les problèmes. Les portes où on n'aura plus de problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne dis plus amen.
Amen.
Alléluia. Paul savait qu'il y avait les ennemis. Paul savait qu'il y avait les adversaires. Mais en même temps, il savait que cette porte, c'est l'Éternel qui l'a ouverte. Alléluia. Aujourd'hui, les pentecôtistes croient que parce qu'il y a beaucoup de batailles, ça ne vient pas de Dieu. Si c'était l'Éternel, il n'allait pas permettre que j'ai ces situations. Si c'était l'Éternel, il n'allait jamais permettre que j'ai ces situations. Pourquoi? Non, je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Il ne peut pas me donner la tristesse comme ça. Allez lire le livre de Jean. Jean dit que la tristesse là pour fondement, pour nous faire quoi? Pour nous donner, activer en nous quoi? La patience. La patience. Oh, si c'est l'Éternel, il ne va pas permettre. Si c'est l'Éternel, il ne va pas permettre. Allons-y dans 2 Chroniques Corinthiennes. Regardons 2 Corinthiennes. Regardons le verset 2. Le verset 2. Le chapitre 2, le verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Ici, Paul est à Troas. Alléluia. À Troas. Il dit, au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit. L'Éternel avait ouvert une porte, n'est-ce pas? Mais il n'était pas en paix. Bien-aimé, Dieu peut t'ouvrir une porte et la paix n'est pas là, mais c'est là où Dieu te veut. On ne dit plus amen, je vois. C'est pas moi, on lit ensemble. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Il dit, je n'ai point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. L'Éternel peut ouvrir une porte qui ne te donne pas la paix, mais au contraire, qui est plein de troubles. Mais c'est là où Dieu te veut. C'est là où Dieu te veut. Alléluia. Cela suppose que parfois l'Éternel provoque des temps de confusion dans nos vies pour manifester sa grâce. Allons-y dans le livre de Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, le verset 3. Un peu devant. Alléluia. Colossiens 4, le verset 3. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte. Pourquoi? La parole. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. C'est-à-dire que Paul demande qu'une porte soit ouverte, pas pour qu'il soit libéré de la prison. Il était en prison, mais pour qu'il ait l'opportunité de prêcher la parole. Quand tu veux que la porte s'ouvre, tu sors. Tu as annoncé la parole. Tu as annoncé la parole. Tant que Joseph ne parlait pas aux panetiers et aux les chansons, le chef des panetiers et le chef des encensons. Il ne devait pas sortir de prison. Est-ce que vous savez que l'interprétation du son de Joseph dans la vie du panetier des chansons a fait approximativement 3 ans avant que ça s'est accompli. 3 ans. 3 ans. Parfois la Bible ne vous montre pas que on a l'impression que c'est tic au tac. Alléluia. Tel il est interprété le lendemain et après, paf, il était dehors. Jamais. Ça a mis le temps. Amen. Paul dit qu'il est en prison. Il ne prie pas, il demande prier pour nous. Pas pour que je sorte de prison, mais pour que j'ai l'opportunité, pendant que je suis en prison, d'annoncer la parole. Alléluia. Oh Seigneur, il veut sortir. Oh Seigneur, ça chauffe trop. Oh Seigneur, je suis mort. Oh Seigneur, on me menace trop. Oh Seigneur, as-tu annoncé la parole? Dis à ton voisin, as-tu annoncé la parole? As-tu annoncé la parole? Alléluia. As-tu annoncé la parole? Pendant que j'étudiais, ça a été choqué. J'étudiais la trajectoire de Paul. Paul, en aucun moment, n'a demandé l'ouverture des portes pour avoir l'argent, pour avoir les connexions, pour avoir le visa, pour avoir... Non. Pour être marié, pour avoir les enfants. Paul n'a pas demandé ça. Il a dit que je veux annoncer la parole. Parce que c'était ça pour lui. C'était sa mission. Tu as été sauvé pour sauver. Tu as été sauvé pour annoncer la parole. Si quelqu'un ne t'avait pas annoncé, est-ce que tu serais là? Maintenant, tu attrapes ça comme si c'était ta propriété. Libère ça aux autres. Alléluia. Ça devient un objet d'orgueil. Je suis chrétien, vous êtes les païens. Vous allez mourir dans le feu. Moi, je vais aller au ciel. Ah! Si celui qui t'a prêché l'évangile faisait comme toi là. Alléluia. Regardez la parole. Matthieu 6, 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et ça, et tout le reste vous sera donné. C'est très intéressant, tout le reste. Quand on dit tout le reste, c'est tout, hein. C'est tout ce que tu peux imaginer et ce que tu ne peux même pas imaginer. Ce qui est monté dans ton cœur et ce qui n'est même pas encore monté dans ton cœur. Je lisais un livre aujourd'hui, un homme de Dieu qui s'appelle Kim Clement, un prophète du côté de l'Afrique du Sud. Il a grandi dans une famille où on ne forcément partait pas à l'église. Alléluia. On allait quand il y avait un enterrement, on allait quand c'était la fête de Noël, et puis on allait quand il y avait un mariage. Alléluia. Et il dit que chez eux, les parents les avaient élevé le jar à chaque... Vous êtes libre de faire ce que vous pouvez, mais restez dans le droit chemin. Et lui, très tôt, à partir de 13 ans, il a commencé à rentrer dans la drogue. Il se droguait. Jusqu'à atteindre 20 ans, il était devenu un drogué. Et il jouait au piano. Il dit qu'un soir, il a eu un grand contrat pour aller en Australie. Et chaque soir, quand il rentrait après avoir joué au piano, il était triste. Il a abandonné l'école. On l'a renvoyé de toutes les écoles où il était. Ses parents sont quittés. La ville où ils étaient, ils sont allés dans une autre ville là où on ne le connaissait pas. On l'a inscrit là-bas à l'école. Le responsable de l'école a regardé ses notes. Il a dit que mais l'enfant, c'est un turbulent, hein. Et l'administrateur de l'école a dit que bon, comme je suis chrétien, je vais quand même l'accepter. Mais il a brillé pour absentéisme. On venait avec la police le chercher chez eux. Et quand son père, le matin, sortait avec pour aller à l'école, On croyait qu'il était à l'école. Il partait se cacher sur une montagne là, qui n'était pas très loin de la maison. Quand les parents sortaient, sa mère sortait, son père sortait, il repartait à la maison. Il se couchait, il mettait sa musique de rock, il écoutait le rock, il fumait sa drogue, il buvait ses alcools jusqu'à l'heure de l'école. Et c'était sa vie. Il dit qu'un jour, il est tombé d'un mur et on l'a amené à l'hôpital. Il a fait 3 mois à l'hôpital. Et un soir, un après-midi, un pasteur anglican est venu prêcher la parole à l'hôpital. Et le pasteur est entré dans sa cellule. Le pasteur a dit, est-ce que je peux prier pour toi? Il a dit, non. Et le pasteur lui a dit, ok. La seule chose que j'ai envie de te dire, c'est que Jésus est encore dans la rue. Et lorsque tu auras besoin de lui, n'hésite pas de l'appeler à l'aide et il pourra te toucher. Il dit que cette parole-là, cet homme lui a donné ça quand il avait 14 ans. Et ce jour-là, il s'est rappelé de cette parole quand il avait 20 ans. Et il sortait d'une boîte de nuit où il avait joué toute la nuit. Et il avait bu les alcools, il s'était shooté à la drogue. Il était dans un état second. Et il avait tellement espéré qu'un jour... Donc il dit que le jour où il se levait comme ça, il sentait seulement l'envie de se poignarder. Et il prenait quelque chose, se poignarde. Et c'est comme ça qu'on l'a amené à l'hôpital. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Mais il n'avait pas les moyens de répondre à cette question. Et donc ce jour-là, il avait tellement désiré mourir. Ce jour-là, dans son état de drogue, quelqu'un l'a poignardé. Il a dit, donc c'est comme ça que je vais mourir. Il dit, je vais mourir comme ça sans savoir même qui m'a tué. Qui m'a même poignardé. Je ne sais même pas dans quelles circonstances ça s'est passé. Mais il était drogué tellement que tout ce qu'il savait, c'était sortir de là et aller mourir quelque part. Et pendant qu'il était dans la rue, il s'est rappelé de la parole de ce pasteur-là. Il a dit, Seigneur, il a dit, Jésus, on m'a dit que tu es encore dans la rue. Alors si tu es encore là, s'il te plaît, touche-moi maintenant. Il dit, quelqu'un est sorti de nulle part. La personne l'a prise. La personne l'a amené à l'hôpital. La personne a pris soin de lui. Quand il est revenu en lui, la personne l'a ramené chez lui. Il dit, je ne peux pas vous dire qui était cet homme. Je n'ai jamais su qui était cet homme. Il dit, ça a commencé le début de sa délivrance. Et un matin, un de ses amis est venu lui dire que dans votre rue de chez vous, il y a une église du plein évangile, va aussi là-bas. Et comme lui, c'était un rockeur, il avait des coiffures, extravagant. Alléluia. Donc, il a décidé d'aller tel qu'il est. Alléluia. Il est arrivé à l'église et c'est comme si le pasteur un moment a dit, je vais arrêter le message, quelque chose vient dans mon cœur, si quelqu'un a quelque chose à confesser, qu'il vient ici maintenant. Et il a été le seul qui s'est levé, il est venu, il a confessé ses péchés et on l'a conduit à Jésus. Et il y avait un monsieur qui était là à l'église, qui est arrivé un mois avant lui, quand il a vu, à la fin du culte, il est venu à côté de lui, il a dit, je sens que tu es en manque de drogue et je peux t'aider. Il a dit, c'est la première fois que quelqu'un identifiait qu'il était en manque de drogue. Et cet homme lui a raconté son histoire, qu'il était un grand trafiquant. Dieu connaît comment ça fonctionne. Donc il était un grand trafiquant avant. Et lui, il a donné sa vie à Jésus. Et cet homme l'a pris comme son fils spirituel et il l'a encadré. Il l'a amené chez lui. Il a dit que je vais t'aider. Je sais comment t'aider pour que l'addiction te quitte. Il dit ok. Et le soir là, il lui a dit, confesse tous tes péchés. Si tu as volé, si tu as menti, si tu as violé, dis-le. Et chaque fois qu'il disait, j'ai volé ceci, il dit, Seigneur Jésus, pardonne-le. Seigneur Jésus, pardonne-le. Au nom de Jésus, je le chasse. Il dit, confesse l'autre. Et il a fait comme ça toute la nuit. Quand il est arrivé au petit matin, il a dit, tu es prêt pour recevoir le Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit, c'est qui encore? Il dit que, et le monsieur lui dit, essaye tant que bien que, comme il pouvait lui expliquer. Après, il dit, de toute manière, Même si tu ne comprends pas, quand ça va venir, tu vas comprendre. Et il a prié pour lui. Alors je vous fais grâce de toute l'histoire. Cet homme est devenu un des plus grands prédicateurs. Il a une des écoles bibliques les plus percutantes en niveau prophétique en Afrique du Sud. Les gens viennent de... Il a une école prophétique en Afrique du Sud, en Australie. Son église, il a plus de 200 000 chrétiens dans son église aujourd'hui. Alléluia. Il a cherché quoi? Le royaume. Le royaume. Il a abandonné sa vie. Il a dit, Seigneur, utilise-moi. Et il a ramené plein de ses camarades de l'ancien temps. Ils sont devenus chrétiens aujourd'hui. Toi, tu étais un bagarreur. Tu as ramené tes camarades de bagarre. Tu penses qu'à toi seul. Alléluia. Alléluia. Possède les portes de tes ennemis. Prêche la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. Qu'on t'appelle pasteur, ma pasteur, c'est leur problème. Prêche la parole de Dieu. Oh, on m'a insulté que je suis Maria. Ça fait quoi? Oh, on m'a insulté que Joseph, Joseph, fils de David. Ça fait quoi? Alléluia. Qui sait que tu es chrétien même? On ne sait même pas que tu es chrétien dans ton quartier. Même dans ta rue, on ne sait même pas que tu as donné ta vie à Jésus. Maintenant, on sait que tu es chrétien. Dans ton quartier. Hein? Non. Vous voyez? Un espion. Un espion. Un espion au quartier. Quand les païens ne connaissent pas ton identité, ton adresse devient l'adresse des démons. On doit connaître ton identité. Ça me rappelle une histoire. Ma fille Antoinette qui m'avait raconté ça. J'avais ri jusqu'à. Elle me dit qu'un jour dans la nuit, elle priait, elle a vu le voisin sortir au carrefour. Je vous ai raconté cette histoire. Elle dit que le voisin est sorti, faisait les incantations au carrefour. Papa, papa, papa. Elle dit, Antoinette, tu as fait comment? Tu es possible de sortir? Elle dit que quoi? Elle dit ça aussi. Elle dit jamais. Alléluia. Mais comment on va savoir que quelque chose est en toi? Mon voisin, un jour, lui-même, il faisait sa part à minuit. Je suis sorti à minuit. Il dit, bonjour voisin. Il dit, hé. Il était avec sa femme. Sa femme était derrière, lui, il était devant. Et il maudissait notre camp. Il maudissait notre camp. Je suis sorti avec maman. Il dit, bonjour voisin. Il dit, hey! Il est calé calme, il est resté calme. Il dit, non, voisin, on traversait. On arrive. On est venu à la nuit de prière. La nuit, là, on a envoyé les bombes. Quand on revenait de la nuit de prière, j'ai dit à maman, prends ton caillou, je prends ma part. On est arrivé dans le camp. On a jeté tout Goliath ici. La pierre de David, prends sur ta tête. Ah! Vous ne contrôlerez pas notre vie. Alléluia. Le monsieur là, la femme là, est devenue douce. Elle tapait les hommes au quartier. Elle a commencé à dire, papa de Dan, excusez-moi. Papa va dire, pardon, je voulais jouer à la musique, je joue, c'est toi. Elle dit, non, je viens te demander l'autorisation. On avait détruit la tête de Goliath. Alléluia. Non. Alléluia. Et deux fois, on a pris le monsieur là comme ça. Deux fois, deux nuits. Pasteur Thomas, deux fois. Et notre fois, il est sorti un peu plus à une heure. Et donc, il s'est dit que bon, une minuit, on dort. Amen. Donc, il sort un peu à une heure avec sa femme. À une heure là, nous-mêmes, on est sorti. Il nous voit dire que, hey, bonsoir patron, bonsoir voisin. Il dit, hey, vous ne dormez pas. J'ai dit, non, non, pas à la prière. On partait donner un coup de main à un pasteur ici à Makepe. Et on priait avec lui de minuit à 3 heures. Amen. On priait avec lui dans son église de minuit à 3 heures. Donc, le jour-là, on a trop dormi. C'est Dieu qui avait fait pour qu'on sorte qu'à 1 heure. Donc, on a su sauter. En sautant à 1 heure, on trouve le gars avec sa femme en bas de notre palier. Il verse le remède. Il verse le remède. Un matin, cette femme a ouvert elle-même sa bouche quand une autre femme en face l'a giflé. On ne l'avait jamais giflé. Elle a dit que oui, je sais que dans... Ici, on dit que j'amène les remèdes. C'est vrai, j'ai les remèdes, mais c'est les remèdes pour me protéger. Elle a dit, je t'ai demandé quelque chose. Ça te protège, ça te regarde. Mais tant que tu es dans ce camp, nous tous, on est en danger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si quelqu'un fait des médicaments et que tu vois dans ton quartier, sache que tu es affecté. Hein? Sauf si tu parles. Je me tiens sur la parole de l'Éternel. Et je revoque. Là où il avait mis le remède, j'ai pris l'eau. J'ai versé. J'annule. On va tous réussir dans le camp-ci. On va aller de gloire en gloire. Celui qui essaie de voler ma maison, il devient fou. Va voler ailleurs. Va voler dans les quartiers voisins. Va dans mon quartier. Alléluia. 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 Alors, quand tu as pour objectif de représenter le royaume, l'armée du ciel t'accompagne. L'armée du ciel t'accompagne.